Bonjour et bienvenue, bonjour à tous, bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent à Ploermel, qui vont essayer de suivre ce cours, malgré le froid, la léthargie, le sommeil, le temps de digestion, enfin bref, les ennemis sont nombreux. Cet après-midi, nous nous plongeons ensemble dans une réalité, celle de l'Antiquité, et notamment nous partons à la découverte des pères de l'Église. Pour ce faire, et puisque la réalité des pères est assez complexe. Complexe ne veut pas dire difficile, cela veut dire riche, pas la même chose. J'ai pensé que, puisqu'on avait deux cours sur les pères de l'Église, il serait bon de vous présenter deux personnages éminents, les deux poumons que représentent l'Orient et l'Occident. Il serait bon de commencer par le commencement, et c'est-à-dire celui qui est le plus vieux et le plus éminent. C'est Origène. Nous commencerons aujourd'hui par Origène et nous terminerons notre enseignement la prochaine fois par Augustin. Le père Fago me rappelle qu'il faut que je me présente. Alors ici, je vous rappelle que je suis votre curé. Voilà, la plupart des gens qui sont ici rassemblés. Que ça fait depuis 2014 que je suis ordonné prêtre. Je suis dans ma 7e année, donc encore un jeune prêtre. Ma formation et d'être d'abord archéologue et plutôt spécialiste de l'Antiquité, ça tombe bien, c'est mon sujet d'aujourd'hui. Je ne demande pas d'apprendre le chinois, ça c'est plutôt pas mal. Ma spécialité c'est l'Antiquité chrétienne, notamment les catacombes, et encore plus particulièrement l'épigraphie chrétienne et tout ce qui est attrait au rite funéraire des premiers chrétiens, et notamment des gallo-romains, et plutôt des romains. J'ai eu la chance de passer presque 10 ans à étudier l'Antiquité, que ce soit en sciences profanes ou que ce soit en sciences théologiques. Études longues mais passionnantes qui m'ont conduit à découvrir moult civilisations, moult langues. Et c'est une joie pour moi que de vous introduire aujourd'hui à cette science des pères de l'Église. La science des pères de l'Église, la connaissance des pères, elle ne serait possible normalement et juste pour chacun que si chacun ici rassemblé maîtrisait à fond l'histoire antique. Alors vous allez me dire, j'ai quelques vagues connaissances, mais de là à me balader dans les premiers siècles de l'Église, c'est compliqué. Que tout le monde disposerait sous la main d'un bon dictionnaire de grec, un bailli traduit français ou un gaffio traduction latin. Que chacun.
Il va me dire que c'est moi. Vous voyez l'image? Oui, mais c'est arrêt sur l'image. Oh. Attends, mais oui, arrêt sur l'image. Je ne vois pas l'image. Je ne vois pas l'image de maintenant. C'est pratique de communiquer. On va s'arrêter au moment où ça bloque. Ah, okay. Il faut que je l'appelle, je pense que ça va être plus simple.
Sinon, quitter et redémarrer la première session, peut-être.
La quoi?
Quitter et redémarrer, la fonction en bas, peut-être. Ouais, mais attends, non, voilà, c'est qui vous renvoie l'invitation.
Oh non, c'est trop dommage.
C'est bien de pouvoir rejeter la faute sur l'autre.
Ah, oui, c'est exactement ça, rejeter la faute
vous
sur l'autre.
Vous entendez un peu, Armel?
Oui. Alors maintenant, on recommence et on n'a plus... Alors, on a... Attends, je vais finir là. Alors, on entend reparler?
1, 2, 3, 4, vous nous entendez, peu, Armel?
Oui. Oui, très bien. Mais alors, il y a arrêt sur l'image. L'image, ne... mais à la limite, c'est mieux, sauf si on ne voit pas le...
Il y a pour arrêt.
on entend le son. Et à la limite, je passerai le diaporama.
Oui.
On voit que porter si à la sieste, donc c'est bien d'avoir un peu d'image.
Comment? Si, 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 si.
Ah oui.
Que je n'ai pas une insulte, mais qu'on a confort des écoutes, monsieur.
Mais on trouverait. Ah, ça y est, ça y est, ça revient. Enfin, ça revient. On n'a plus le diaporama. C'est... Non, non, c'est figé. On a le, votre photo au moment où ça s'est.
Bon, je me reconnecte, j'ai un problème.
D'accord.
Ok.
Mais à la limite, si on a que le son, moi je passe le diaporama.
On est arrivé au Gaffio, hein. On n'a pas été plus loin.
On était au Gaffio, hein. Traduction. Ah, je commence. Diaporama, oui, je me dis. Le voilà. Okay.
Ce serait peut-être plus simple.
Alors, j'ai pas exactement le même que. Parce qu'il l'a encore traficoté cette nuit. Ouais. Mais c'est pas grave. Ben oui, mais. Ah, non.
Non, là, c'est lui qui. C'est la connexion.
Les pauvres, ça. Je kiffe, vous voyez? Est-ce qu'il me renvoie un lien? Non. Ah. Vous voyez? Votre poumon fonctionne bien. Ça y est, c'est bon.
Voilà, bon.
Qu'est-ce que voilà, vous croyez
à la fois, hein.
Je passe le diaporama donc, de mon côté.
Je vais le lancer, vous allez me dire si vous le voyez, après vous coupez le micro, d'accord?
D'accord.
Et après, je ne touche plus rien.
Impeccable, c'est impeccable.
Voilà.
Donc, je disais, pour les gens qui ne sont pas encore endormis totalement, dû au froid ou dû au chaud, bref, ça dépend si vous êtes placé sur le radiateur ou à côté, que... succinctement, ces pères de l'Église ne parlaient ni gallo ni breton, ils parlaient latin ou grec. Effectivement, c'était déjà une lutte, comme pour nous aujourd'hui. Mais deux mondes, deux poumons différents, disait Jean-Paul II, l'Orient et l'Occident. L'Orient qu'on a un peu et complètement oublié, mais que nous redécouvrons maintenant. Parce que ça fait seulement, on va dire, deux siècles que la science patristique revit et que nous redécouvrons les textes. On va en reparler. Je disais en introduction que nous avons choisi comme premier topo Origène, comme figure éminente du monde oriental. On va voir notamment de l'Égypte et de la Palestine. Et puis, le second topo sera plutôt basé sur Augustin, comme figure de proue du monde occidental, même si ce père est africain. On reviendra là-dessus. Je donnais comme première explication que pour pouvoir parler des pères, encore faut-il savoir ce qu'est que la science patristique. Et à la fin de mon topo, vous aurez, pour ceux qui le veulent aussi, le PowerPoint. Donc ne soyez pas affligés si vous voyez que je passe d'une diapo à l'autre. Et c'est vrai aussi pour Pleurmen. Donc, la patristique, la patrologie et la littérature chrétienne antique sont trois choses à distinguer. Cela veut dire que pour faire un peu de patristique, il faut qu'on fasse beaucoup de patrologie et beaucoup de littérature chrétienne. Je m'explique. La patrologie vient du grec pater, comme vous le voyez, qui vient de père, logos, discours. La patrologie, c'est la science des pères de l'Église, la science qui étudie les pères de l'Église. La patristique, elle est plutôt historique, où en fait, la patristique, c'est la fine pointe de la patrologie. La patristique, c'est celle qui parle de la science du dogme, de l'histoire de la pensée des pères. Si la patrologie est plutôt biographique, et présente la vie des pères. La patristique, elle, présente leurs pensées. Donc c'est la fine pointe. La littérature chrétienne antique, c'est la littérature qui est à côté de celle des pères et qui est liée au contexte et qui est en fait considérée comme une sagesse de l'Antiquité. Ça va pour tout le monde? Allons plus loin. Si nous savons à peu près ce qu'est la patristique ou la patrologie ou la littérature chrétienne antique, il faut encore savoir ce qu'est un père de l'Église. Un père de l'Église, c'est quelqu'un qui est d'abord un écrivain en général ecclésiastique, mais pas toujours. On va le voir que c'est souvent un laïc aussi. Qu'il est dans une période historique circonscrite et terminée de l'Antiquité chrétienne, et qu'il est considéré par l'Église comme un témoin particulièrement autorisé de la foi. Cela veut dire qu'il jouit d'une certaine autorité et d'une certaine reconnaissance. Ce n'est qu'au IVe siècle qu'on va parler enfin de père de l'Église. C'est-à-dire qu'au moment de l'âge d'or des pères, on va leur donner le titre éminent de père. On sait aussi que les pères de l'Église se distinguent dans leur enseignement grâce et par l'orthodoxie de leur doctrine. L'orthodoxie, cela veut dire que leurs pensées ou les dogmes auxquels ils arrivent sont droits. Orthodoxe, cela veut dire droit. Contrairement à quelqu'un qui est hérétique. Hérétique, c'est celui qui pense mal, qui finit mal aussi, qui en général est exilé, au moins, avant d'être condamné ou châtié. À l'époque, il y a moins de liberté qu'aujourd'hui, une pensée non droite est corrigée. Et cette correction va de la correction fraternelle, de l'admonestation verbale, jusqu'à la mort. Et c'est pas les personnes qui choisissent leur sentence, ils sont condamnés par un tribunal. La sainteté de la vie. Un père de l'Église est reconnu par sa sainteté, nous allons le voir à travers l'exemple d'Origène. Sa sainteté est reconnue notamment à cause de la cohérence entre ses actes et ses paroles. C'est quelque chose qui nous frappe beaucoup, mais très souvent, les saints sont reconnus par cette même cohérence de vie. Sainteté dans le sens d'héroïcité des vertus pratiquées, par les vertus qu'il pratiquait, nous avons reconnu la sainteté de vie de cette personne. L'approbation de l'Église, ça veut dire que les autorités compétentes ont reconnu que cette personne était éminente et qu'on peut le déclarer père. Et puis de nouveau, l'argument de l'ancienneté, non pas parce que quelqu'un est très vieux, il est très sage, mais l'ancienneté par rapport à l'Antiquité. Encore une fois, il fait partie d'une période particulière de l'histoire qu'on appelle l'Antiquité. Orthodoxie de la doctrine, sainteté de la vie, approbation de l'Église, ancienneté. Voilà quatre notes pour pouvoir nous permettre de reconnaître ce qu'est un père de l'Église. Alors, si nous savons ce qu'est un peu mieux maintenant la patristique, la patrologie, la littérature chrétienne ou un père de l'Église, il faut savoir quand et où il sévissait. Je vous mets ici un récapitulatif chronologique par sphère, c'est-à-dire par monde oriental et par monde occidental. Nous retiendrons pour notre étude de cet après-midi que le haut du tableau, le bas du tableau, c'est une étude pour les érudits, pour les scientifiques, pour les personnes qui remettent toujours tout en question. Ce n'est pas notre cas, nous sommes de bons étudiants et nous faisons confiance aux professeurs. Le haut du tableau nous suffit. La base et le départ de l'ère patristique commence après la mort de saint Paul, avec des personnages comme Clément, qui va écrire notamment des lettres aux Romains ou aux Corinthiens, puis des personnages comme Ignace. On est à la fin du 1er siècle, vers 96. La fin de l'ère patristique en Occident se termine avec, comme repère chronologique, la mort du pape Grégoire le Grand, en 604. Ou, en Orient, la fin de l'empereur Justinien. Pourquoi il y a deux dates? Eh bien parce que le monde était bâti sur deux pôles, un monde oriental et un monde occidental. L'ère patristique continue malgré la chute de Rome en Occident, après 476, et se développera même au-delà de l'empereur Justinien. C'est pour ça que nous avons des hypothèses plus tardives, comme Isidore de Séville en 636 en Occident et Jean Damascène en 750 en Orient. Évidemment, ces périodes tiennent compte à chaque fois de la fin des mondes et de la fin d'une culture ou d'une civilisation. Saint Augustin, on le verra, décrit notamment l'arrivée des barbares. Dans son livre « La cité de Dieu », il évoque la fin de cette culture, la fin de l'Empire romain. Chacun, chaque père, est pris très sincèrement et vraisemblablement dans un contexte très particulier qui permet qu'il réagisse à chaque fois de façon différente. Et nous devons prendre ça en compte. Chaque père ne peut pas simplement, ou son contenu ou ce qu'il a écrit, ne peut pas être retiré du contexte dans lequel il a écrit. Alors, allons faire un voyage sur notre carte pour voir de quoi on parle. L'ère patristique couvre au-delà même de l'Antiquité. J'appellerai par Antiquité chrétienne de zéro, naissance de Jésus, alors oui, moins 4, moins 6, ce que vous voulez, mais la naissance de Jésus à Bethléem, jusque au 6e, 7e siècle, 6e, 7e siècle, on va dire, pour l'Occident, 9e siècle pour l'Orient, jusqu'à la crise des images et notamment des icônes. Si nous regardons cette carte, elle a le mérite de présenter par une synthèse très fine non seulement le développement du christianisme et du coup de l'essor des pères de l'Église géographiquement, mais aussi chronologiquement. Allons voir d'abord de près cette frise. La frise nous montre qu'il y a deux grandes dates qui font référence, quatre grandes dates selon la frise, qui font référence pour l'histoire de l'Église antique. Le fameux concile de Nicée, dont on vous parle tous les dimanches et qu'on prononce avec joie, ou le concile de Nicée-Constantinople, mais vous voyez que ce concile est distinct en deux dates, 325-381. Plus tard, le concile d'Éphèse en 431 et le concile de Chalcédoine en 451. Notons qu'il s'agit à chaque fois de moments très importants de la vie et de la croissance de l'Église. Notons qu'à chaque fois, ce sont des lieux différents. Nous considérons donc que le développement des pères s'est fait d'abord dans le bassin méditerranéen. De façon très claire, vous voyez très bien que les ports les plus célèbres de l'Empire romain sont devenus les bassins, les creusets de l'essor du foisonnement des pères. C'est vrai pour le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, Origène, qui est né à Alexandrie, au nord de l'Égypte, dans le delta du Nil, on en reparlera tout à l'heure, mais qui avait vu naître avant lui un père cité notamment par le père Frédéric dans sa première introduction, Saint Clément d'Alexandrie, qui a écrit notamment son grand traité sur la pédagogie par le pédagogue, quelqu'un comme Saint Athanase d'Alexandrie après lui, ou Saint Cyril. Ces mêmes pères, eux-mêmes, ont voyagé. Ils ne sont pas restés tout le temps à se prélasser au soleil, à l'ombre du phare d'Alexandrie, par exemple, pour Origène. Ils sont allés, et c'est le cas d'Origène, à Césarée plus tard. Césarée maritime au port de la Méditerranée, mais côté Palestine, qui a vu notamment le développement de quelqu'un comme Eusèbe de Césarée, le premier historien ecclésiastique. Rappelons, et c'est normal, que le développement et l'essor des pères a eu lieu dans les villes les plus importantes du christianisme antique. C'est-à-dire, le christianisme, comme vous le savez, et nous devons méditer là-dessus parce que nous devons retrouver nos racines, est né en Terre Sainte, à Jérusalem, à Bethléem, lieux qui seront ensuite, justement, chers, notamment à Saint Jérôme, on en reparlera. Il s'est développé en s'étendant à la capitale de l'Empire de l'époque qui était Rome, qui a vu une autre période patristique se développer, notamment suite à la mort des princes des apôtres Pierre et Paul, comme Clément, Justin. Vous les voyez, ce sont des dates qui suivent la mort des apôtres. Si on pense que Saint-Pierre et Saint-Paul sont morts dans les années 60-70, Clément et Justin suivent la mort des apôtres. Mais à l'époque, déjà, il y avait aussi d'autres grandes villes dans le bassin méditerranéen. Et les capitales d'empire étaient Jérusalem, Rome, bien sûr, mais évidemment Alexandrie et Antioche. Le bassin de la diaspora juive était notamment Alexandrie et Antioche qui comptaient de nombreux ressortissants juifs parmi eux. C'est à travers notamment ce bassin judaïsant qu'il y a eu des chrétiens, parce qu'il y avait déjà un terreau commun qui était l'Ancien Testament. Vous le savez que à travers des exemples comme Paul, qu'on va pouvoir convertir les gens au christianisme ex nihilo, à partir de rien, c'est ce que Paul appelle l'évangélisation aux gentils, aux nations païennes, et puis sinon aux juifs, et bien avec ceux qui ont déjà un terrain commun qui est l'Ancien Testament. Nous avons donc l'expansion ici chronologique et géographique, et vous voyez que l'essor de ces pères ne sort pas du bassin méditerranéen, qu'il a quelques ressortissants aussi évidemment en Afrique, saint Augustin, Tertullien et saint Cyprien, et pas des moindres, qu'il a évidemment d'autres ressortissants au bord de la mer Caspienne avec saint Basile de Césarée, Grégoire de Nazian, saint Grégoire de Nice, avec le grand développement en Grèce actuelle ou en Turquie de toute une branche de la patristique orientale. Ça va ? Allons faire un tour. Accrochons-nous. Ce n'est que le début. J'ai mis une petite variante et une petite explication sur qu'est-ce qu'un docteur et qu'est-ce qu'un père de l'Église. Parce que souvent on se dit, en fait, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est en statut dans une église, un père de l'Église, ou c'est quelqu'un dont j'ai le portrait à la maison, un docteur ? Non. Un père et un docteur, ce n'est pas la même chose. Des docteurs de l'Église, il y en a 33 que l'Église reconnaît aujourd'hui comme docteurs. Et il y a même des femmes, pour vous citer ne serait-ce que Thérèse de Lisieux et Thérèse d'Avila. Mais des pères qui sont docteurs et qui ont du coup, par leurs enseignements, le devoir de nous enseigner et d'être entendus, il y a pour le monde occidental, Ambroise de Milan, Jérôme, Augustin et Grégoire le Grand. Alors que pour le monde oriental, les pères qui sont aussi des docteurs, il y a Athanase, Basile de Césarée, Grégoire de Nazian et Jean Chrysostome. Pour faire une synthèse sur ce que je viens de dire et sur ce que sont vraiment les pères de l'Église et comment nous devons les percevoir, eh bien, nous devons d'abord les percevoir effectivement comme des génies de l'Antiquité qui avaient une capacité encyclopédique au niveau du savoir, à retenir les choses, à les diffuser, à les transmettre. Mais nous pouvons aussi nous fier, par exemple, aux définitions qu'en donne un certain Vincent de Lérins. Tout le monde connaît l'île de Lérins, tout le monde connaît l'alcool qui est fait sur cette île. Est-ce que tout le monde connaît Vincent de Lérins ? Je ne sais pas. Tout le monde sait que c'est la belle île qu'on voit au large de Cannes. Ah, Lérins, ouais, très bien. Mais en fait, cette île a un passé très chargé et notamment très riche grâce à un premier développement patristique autour du 5e siècle. Je vous rappelle que c'est tout à fait normal, puisque le christianisme est parvenu chez nous, par notamment les voies de communication de l'époque. Vous avez vu que le bassin de développement, c'était la Méditerranée, donc par bateau, et puis par les voies de communication qu'avaient mis en place les Romains. Cela veut dire aussi que le christianisme est arrivé chez nous, évidemment, par Marseille, par le Rhône, puis ensuite est remonté difficilement jusqu'à la Bretagne où il a fait face à des Celtes irréductibles. Mais Astérix ne se trompe pas trop car nous avons la tête dure et encore aujourd'hui, je ne dis pas ça à ceux qui sont un peu armels, qui sont plus près de Brocéliande que nous, mais quand même, je le dis, les réminiscences païennes sont très fortes. Malheureusement, même encore aujourd'hui, eh bien, nous constatons que le christianisme en Gaule a mis du temps à arriver chez nous parce que justement, il a fait face à une révolte populaire très forte. Et nous avons dû subir, heureusement pour nous, plusieurs vagues d'évangélisation pour pouvoir être enfin convertis. D'en bas, par Marseille ou par Poitiers, ou d'en haut, par Colomban et les autres qui, généreusement, sont venus nous apporter la bonne nouvelle. Évidemment, les premiers en ligne devant Marseille à être touchés par le christianisme, eh bien, les îles. Donc, une île au large de Cannes, ça ne nous surprendra pas que, eh bien, ils étaient les premiers à être christianisés aussi, comme la Corse, où on a des vestiges paléochrétiens très importants. Si on s'attache à regarder de près la définition ou les définitions que nous donne Vincent de Lérins des pères de l'Église, ils peuvent être très éclairants pour nous. Je vous les lis. Les pères sont ceux qui, en enseignant et en demeurant dans la foi et la confession catholique de façon sainte, sage et constante, ont mérité de mourir fidèlement dans le Christ ou d'être heureusement mis à mort pour le Christ. Bienheureux ceux qui ont confessé la foi du Christ et qui ne sont pas morts, bienheureux aussi ceux qui sont allés jusqu'au martyr et au don de leur vie et qui ont donc rendu témoignage par leur vie au Christ. Car c'est ça que cela veut dire le martyr, rendre témoignage. C'est écrit par Vincent dans le Commonitorium qui signifie aide-mémoire. Dans vos soirées un peu mondaines, vous pouvez toujours le sortir, ça fait bien. J'ai noté ça dans mon aide-mémoire, dans mon petit Commonitorium. Tout ce que les saints-pères ont pu soutenir en unité de pensée et de sentiment, il faut le considérer comme la doctrine vraie et catholique de l'Église, sans aucun doute ni scrupule. Rien ne doit être cru par la postérité, excepté ce que l'antiquité sacrée des saints-pères a tenu unanimement dans le Christ. Alors là, par contre, il met l'accent sur la doctrine et la vérité du discours, et pour montrer qu'il faut faire face à plusieurs autres idées qu'on va appeler hérésies, et il encourage les foules à suivre leur enseignement et à ne pas s'en écarter. Une dernière définition de saint Vincent de Lérins. Taille les pierres précieuses du dogme divin, certis-les fidèlement, orne-les sagement, ajoute de l'éclat, de la grâce, de la beauté, que par tes explications, on comprenne plus clairement ce qui auparavant était cru plus obscurément. Que grâce à toi, la postérité se félicite d'avoir compris ce que l'Antiquité vénérait sans le comprendre, mais enseigne les mêmes choses que tu as apprises. Dis les choses d'une manière nouvelle, sans dire pourtant des choses nouvelles. Je me le souhaite pour aujourd'hui, que tout le monde ait compris ce que je disais des pères de l'Église. Et c'est pourtant ça le but. Si nous présentons cette science patristique simplement comme une science dédiée à une élite d'érudits, ça ne sert à rien du tout. Je suis là pour vous dire cet après-midi que cette science est certes complexe, mais d'abord accessible à tous, ne serait-ce que si vous vous laissez toucher par quelque chose qui vous fait vibrer ou qui vous enchante. Et on est là pour savoir exactement, et moi vous redonner les instruments qui vous permettent de vous laisser toucher par la grandeur des écrits des pères. Plus près de nous, un certain Hans Urs von Balthasar, personnage éminent du siècle dernier, qui a influencé par sa pensée des gens comme un certain Karol Wojtyła, un certain saint pape Jean-Paul II, théologien renommé et figure de proue en tout cas pour le pape Jean-Paul II, disait des pères. La flamme vivante de l'esprit d'amour descendu du ciel en terre sainte est conservée par l'Église et transmise de génération en génération pour incendier le monde. Premier argument de Balthasar qui est un élément majeur pour nous. Il s'agit d'un élément identitaire. Retourner étudier les pères de l'Église, c'est retourner en terre sainte au berceau du christianisme. C'est nous souvenir de notre propre passé, et c'est recevoir ce que nous avons nous-mêmes à transmettre. Voilà le devoir. Et il poursuit. Nous nous souvenons de la pensée des pères comme l'homme se souvient des profondes intuitions de l'adolescent. S'il peut les revivre telles quelles parce que la situation, la vie, le monde entier est changé pour lui, il peut du moins se fortifier à la pensée que cette vibration ardente et impatiente de tout son être, c'est lui-même. Nous pouvons chercher à ce qu'un écrit des pères nous fasse vibrer. Et nous allons découvrir qu'en fait, dans cette vibration, dans ce sentiment amoureux que nous avons dans les écrits des pères, eh bien nous nous rendons compte en fait que c'est nous-mêmes qui vibrons. Parce que les pères, nous allons le voir et le découvrir, n'ont fait qu'une seule chose, commenter, expliquer l'écriture. Et nous donner le goût d'aller explorer, d'aller analyser, d'aller interpréter l'écriture sainte. Alors pourquoi il faudrait encore lire les pères? Je vous donne d'autres arguments, comme vous ne seriez pas convaincu. Lire les pères, c'est assister au développement du dogme. Dans son conditionnement historique, les grandes décisions théologiques des pères ont engagé l'avenir de l'Église. Lire les pères, c'est recueillir leur exemple concret, comment ils ont réagi face au paganisme, face aux persécutions. Ça devrait nous faire réfléchir, hein. Toutes les choses les plus atroces ou pires sont déjà passées. On devrait plutôt aller voir les enseignements passés pour voir comment eux, ils ont réagi. Lire les pères, c'est découvrir à leur suite le sens christologique de l'Écriture, leur sens du mystère chrétien. Les pères ont médité dans la prière et vécu dans l'expérience les sources scripturaires. Remarque importante, et c'est vraiment lumineux de le dire, il faut savoir bien lire les pères. On ne peut pas faire n'importe quoi en les remettant dans leur contexte historique et culturel. Ce serait une injustice de demander aux pères des premiers siècles d'être en accord avec une orthodoxie définie après eux. La théologie se forme, est en plein jaillissement, en recherche et en progrès. Les pères sont les témoins de la foi de l'Église qui cherche son expression et se définit. Enfin, pour redire cet attachement au Père, je ne citerai ici qu'une simple et brève phrase du Concile Vatican II dans sa constitution dogmatique Dei Verbum sur la parole de Dieu. L'enseignement des saints pères atteste la présence vivifiante de cette tradition dont les richesses passent dans la pratique et dans la vie de l'Église qui croit et qui prie. Il n'y a pas d'un côté les pères qui agiraient ou qui enseigneraient et de l'autre ceux qui prient. Les enseignements que nous avons reçus sont déjà le fruit de leurs prières, sont le fruit d'âpres discussions, sont le fruit parfois malheureusement de divisions, mais d'un enseignement très riche, ce qu'on appelle la tradition. Quand on parle de tradit, cela n'a rien à voir. C'est tellement pauvre et réducteur par rapport à ce qu'est vraiment la tradition. La tradition, c'est quelque chose que nous recevons et que nous sommes appelés à transmettre. À travers l'exemple des pères de l'Église, la tradition qu'ils nous transmettent, c'est le trésor d'un bagage culturel et d'une pensée et de la prière. Alors je vous disais aussi que, eh bien, l'exemple qu'on a souvent des pères de l'Église, quand vous allez me dire, quand je vais vous poser pour la première fois l'exemple d'un père de l'Église, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous penserez à me dire, un père de l'Église, c'est une statue dans une église, et c'est vrai qu'en général, ils composent, ils décorent, ils ornent, les colonnes des statues, parce que physiquement, ils ont été des colonnes aussi par leurs enseignements pour soutenir l'Église. Je vous donne un exemple majeur et un exemple mineur qui va vous parler. Le premier, celui de la chaire de Saint-Pierre à Rome. Si vous allez un jour, j'espère qu'on pourra le faire bientôt, quand les temps seront meilleurs, en pèlerinage à Rome, nous irons découvrir que dans le cœur de cette grande basilique chrétienne, la plus grande au monde, il y a en dessous du vitrail central du Saint-Esprit un fauteuil, un canapé, un trône plutôt, dédié à la chaire de Saint-Pierre. Cette chaire est en fait le lieu symbolique de la prédication de l'apôtre. En fait, c'est une relique du 9e siècle, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est de savoir que ce fauteuil qui signifie le lieu de l'enseignement dans l'Antiquité est soutenu par la figure de quatre pères de l'Église. Ces statues en bronze faites par le Bernin représentent les figures d'Ambroise et Augustin pour le monde occidental, Athanase et Jean Chrysostome pour le monde oriental. Plus près de chez nous, c'est pas Saint-Pierre de Rome, mais c'est quand même pas mal. Nous avons, par exemple, les pères de l'Église qui aussi sont représentés sur le plafond peint de la chapelle Notre-Dame de Kermesse à Neuilhac. Ça pourrait être le cas d'un petit topo, d'une petite balade au printemps pour aller découvrir et les identifier sur ce beau plafond peint de Notre-Dame de Kermesse. Pour pouvoir parler des pères de l'Église, il faut aussi saisir quelle est cette science qui se développe autour d'eux, et pour pouvoir atteindre les textes et exactement ce qu'on va appeler les sources, il faut pouvoir trouver les bons outils. Un outil qui est accessible à tous, qui n'est pas cher et qui se trouve encore, le premier, c'est le livre qui est situé en haut à gauche, pour lire les pères de l'Église, de Adalbert Hamann, qui présente en fait de façon générale, sous forme de petite synthèse, la vie des pères et leurs pensées. C'est un très bon résumé de la vie des pères de l'Église. Un manuel beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus riche aussi, et qui reste le meilleur cours de patrologie à ce jour, il y en a encore quelques exemplaires sur Internet, pas trop cher d'occasion, c'est le bouquin ici de Sir Gabriel Peters, Lire les pères de l'Église, cours de patrologie. Ça fait quand même 786 pages. Hein. Ça permet de s'endormir doucement. Vous voyez ? Mais c'est ça aussi, les pères de l'Église. C'est rarement des choses. Ça peut être très synthétique, mais c'est quand même des œuvres en général monumentales. Dans le même ordre d'idées, et parce que le but c'est que vous puissiez ensuite vous-même vous servir et piocher auprès de thématiques qui vous plairaient, il existe une revue qui s'appelle la revue Connaissance des Pères de l'Église et qui a à chaque fois traité d'un thème particulier avec des exemples tirés des Pères de l'Église. Ça veut dire que si vous allez sur Internet et que vous cherchez un thème en particulier auprès de cette collection, eh bien vous pouvez trouver tout de suite une synthèse faite sur le thème qui vous plaît. Ça, c'est très pratique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de lire tous les Pères de l'Église avant de faire vous-même la somme et la synthèse des informations. Près de nous, et des ouvrages un peu moins scolaires, le meilleur bouquin qui existe en patristique, c'est le bouquin de Questen, ici présent, que vous voyez en haut à gauche, mais malheureusement en 4 tomes. C'est de loin la meilleure référence. Malheureusement, vous ne le trouverez plus. Ou alors vous en trouverez un ou deux éléments, mais il y en a 4, et le 4e numéro sera à un prix faramineux, à moins que je mette les miens en vente, mais je ne compte pas le faire. Donc, ne laissez tomber ces ouvrages, mais sachez qu'ils existent. Et de loin, c'est le meilleur cours de patrologie avec celui de Sir Gabriel Peters. Ce que vous pouvez trouver de plus accessible, c'est le bouquin qui est sur la droite et qui, lui, est en 3 tomes, qui est plus ancien mais qui est une valeur sûre, qu'on appelle communément le Cailleret, à cause de son auteur Fulbert Cailleret, qui a fait un petit cours de patrologie et d'histoire de la théologie. C'est une bonne synthèse, les numéros se trouvent facilement sur Internet, les 3 tomes, et ça peut être une première mise en bouche à la patristique, donc à la théologie patristique. Quand on parle de patristique, on parle aussi de sources, parce que là, pour l'instant, je vous ai juste présenté des manuels qui présentent des auteurs, qui les mettent dans leur jus, dans leur contexte, et qui nous citent quelques trésors de leurs paroles. Mais je ne vous ai pas parlé de sources. Et on est obligé, par honnêteté intellectuelle, de vous dire que vous pouvez aussi atteindre la source elle-même, le texte en lui-même. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'utiliser deux instruments différents. Pour tous les pères de l'Église, sauf un, vous avez le recueil de sources chrétiennes qui fait un énorme travail d'érudition, de contexte scripturaire, d'analyse du texte philologique et qui vous permet de vous présenter en un seul et même volume la langue d'origine. Bah, ça dépend pour un auteur oriental, le grec à gauche, la traduction à droite. Vous avez toujours la possibilité d'atteindre le texte original dans sa langue maternelle et la traduction de l'auteur. Inconvénient, ça coûte très cher. Je vous ai présenté là sur le PowerPoint le numéro 605 qui est le dernier numéro de sources chrétiennes. Si c'est le numéro 605, c'est qu'il y en a 604 avant. 604 volumes, ça commence à faire de la place dans une bibliothèque. Je ne sais pas si le père Frédéric a encore de la place chez lui, mais il sait que ça prend de la place. Et malheureusement, c'est une science qui coûte cher. Donc même les trouver en occasion sur Internet, c'est compliqué. Mais il faut compter entre 20 et 40 euros le volume. Le volume, c'est une science qui coûte cher. Mais ce sont de loin les meilleurs ouvrages, parce que faits par les meilleures personnes, les plus compétentes, et dans la traduction, et dans le contexte, pour replacer l'auteur dans son contexte. Vous disiez que tout est traduit, tous les auteurs des Pères de l'Église sont traduits chez Sources Chrétiennes, sauf un, qui à votre avis ne peut pas faire comme tout le monde, Augustin. Augustin, il a sa propre bibliothèque, parce qu'il en a presque autant à lui tout seul. Alors, Augustin, ben, il a ce qu'on appelle la bibliothèque augustinienne. Là, je vous ai ramené un exemplaire des dialogues philosophiques ou de la morale chrétienne. Augustin a sa propre bibliothèque parce que les pères augustiniens qui ont traduit Augustin ont voulu faire une collection à part. Tout ça, c'est de l'ordre de l'accessible mais de l'onéreux. Alors, allons vers quelque chose qui est accessible et pas onéreux du tout et qui est vraiment un axe majeur de la pensée. En 2008 et en 2007, le pape Benoît XVI, qui est pétri des pères de l'Église et qui a été vraiment nourri à leur école, a décidé de consacrer pratiquement une année, tous les mercredis, à la présentation des pères de l'Église. Ça veut dire que vous avez retrouvé, parce que ces audiences ont été publiées beaucoup plus tard sous la forme d'un seul et même livre, vous avez retrouvé dans un livre pas cher les discours du pape Benoît XVI en audience du mercredi. Cela veut dire qu'il a fait une superbe synthèse et superbe présentation de chaque père de l'Église. En 3-4 pages, vous savez qui est l'auteur, ce qu'il a fait, quelle était sa pensée théologique et quelle était sa vie spirituelle. Si vous devez commencer par quelque chose, commencez par ça. Vous lisez ce livre, vous regardez le père qui vous parle ou celui qui ne vous parle pas, vous éliminez celui qui ne vous plaît pas, vous allez chercher davantage avec celui qui vous plaît, et seulement une fois que vous aurez vu la figure du père vous faire vibrer, vous irez vous poser la question de savoir si son œuvre a été traduite, et si oui, si le texte existe dans votre langue à vous, parce que lire Sources Chrétiennes en allemand, je ne pense pas que ça botte les gens ici, ou le lire dans une autre langue, mais d'abord se laisser toucher par l'histoire des pères, rentrer dans cette science par ce prisme-là, et ensuite aller voir ce qu'ils ont écrit. Si le pape Benoît XVI a décidé de représenter la figure des pères au cours de la catéchèse du mercredi, c'est d'abord un acte politique, c'est pas un acte anodin. Le pape Jean-Paul II avait décidé de parler de l'anthropologie chrétienne et de parler notamment de la relation homme-femme à travers les catéchèses du mercredi. S'il le fait, c'est pour faire passer dans le magistère, c'est-à-dire dans l'enseignement de l'Église, les choses les plus importantes. Si le pape Benoît XVI a décidé de représenter au monde entier les pères de l'Église, c'est parce que l'Église en a besoin. On a besoin de se replonger dans notre passé, dans notre riche passé, dans notre riche tradition, parce que nous avons besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. N'est-ce pas, Père Frédéric? C'est essentiel. Et des ouvrages d'une plus grande vulgarisation encore, si vous avez déjà un penchant quant à un côté oriental ou occidental, l'auteur Hans von Kamphausen a écrit un ouvrage qui présente d'un côté seulement les pères latins ou de l'autre côté simplement les pères grecs. Ce sont des ouvrages pas chers du tout et qui permettent déjà d'avoir une bonne idée synthétique de qui est qui et qui fait quoi. Ce n'est pas parce que les pères ont écrit des choses qu'ils n'ont pas aussi une fécondité propre. Cela veut dire que les pères, au cours des âges, que ce soit au Moyen-Âge, comme ce soit à la fin de l'Antiquité, comme dans le monde moderne ou contemporain, ont eu des élèves assidus qui, depuis le début, ont vu l'intérêt de se plonger dans l'étude des pères. Plus près de nous, nous avons comme personnage qui est pétri de la pensée des pères, qui connaît les auteurs antiques, le cardinal John Henry Newman ou le cardinal de Lubac, qui, par exemple, à travers son livre « Méditation sur l'Église », montre à quel point les pères sont toujours importants pour nous. Quelqu'un que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas sous cet angle-là, par exemple, c'est le cardinal, aujourd'hui cardinal, Cantalamessa, que vous connaissez tous peut-être sous son élan ou sa présentation charismatique, mais ce que vous ne savez pas, c'est que avant d'être le prédicateur qu'il est ou le chef de file d'un certain mouvement charismatique ou en tout cas de la présence de l'Esprit-Saint dans le monde d'aujourd'hui, c'est que cet homme est aussi d'abord pétri des pères de l'Église. C'est-à-dire qu'il a toute cette connaissance-là et que tout cela ressort à travers, évidemment, tout leur enseignement. Voilà pour une présentation générale. Allons maintenant, à la suite d'Origène, découvrir qui était ce personnage éminent du IIe siècle après Jésus-Christ, cet Égyptien. Allons découvrir qui est Origène. Origène, né autour de 185 à Alexandrie en Égypte, au bord du delta du Nil. Petite carte du bassin méditerranéen, je vous ai mis un gros rond pour Alexandrie au bord du delta du Nil. C'était le lieu, vous allez le voir et vous en rappeler, d'un foisonnement de pensées extraordinaires, lieu aussi important de la diaspora juive. À son époque, l'école dite d'Alexandrie atteint son apogée. Il est le successeur de Clément d'Alexandrie, dont les enseignements comme le pédagogue demeurent encore comme des sommets de la littérature chrétienne de l'Antiquité. On a entendu parler du pédagogue au cours du premier topo de l'Athénée, au cours de l'introduction du Père Frédéric. Origène possède un savoir encyclopédique. Il recueille l'héritage de Clément d'Alexandrie et le relance vers l'avenir de manière tellement innovatrice qu'il imprime un tournant irréversible au développement de la pensée chrétienne. Ce fut un véritable maître, au sens de celui qui enseigne, l'enseignant. Et c'est ainsi que ses élèves se souvenaient de lui, avec nostalgie et émotion, non seulement d'un théologien brillant, mais un témoin exemplaire de la doctrine qu'il transmettait. On nous dit « il enseigna ». Écrit Eusèbe de Césarée, son biographe. Eusèbe de Césarée qui écrit au IVe siècle sur la vie d'Origène. Que la conduite doit correspondre exactement à la parole, et ce fut surtout pour cela, aidé par la grâce de Dieu, qu'il poussa un grand nombre de personnes à l'imiter. La première chose qui frappait les esprits autour d'Origène, c'est que ses élèves avaient remarqué qu'il était cohérent entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et c'est là le plus grand exemple qu'il a laissé dans l'Antiquité de cohérence entre gestes et paroles. Évidemment, cela rendait d'autant plus pertinent son discours. Origène a un profond désir du martyr. Toute sa vie fut parcourue par une aspiration incessante au martyr. Il avait 17 ans lorsque, en la 10e année du règne de l'empereur Septime Sévère, la persécution contre les chrétiens fut lancée à Alexandrie. Clément, son maître, abandonna la ville et le père d'Origène, Léonidas, fut jeté en prison. Son fils désirait ardemment le martyr, mais il ne put réaliser ce désir. Il écrivit alors à son père, l'exhortant à ne pas abandonner le témoignage suprême de la foi. Et lorsque son père fut décapité quand même, le petit Origène sentit qu'il devait accueillir l'exemple de sa vie. Évidemment, si vous avez votre père qui a été martyrisé devant vous, cet exemple est d'autant plus prégnant, surtout quand vous désirez déjà le martyr. 40 ans plus tard, alors qu'il prêchait à Césarée, il fit cette confession. « À rien ne me sert d'avoir eu un père martyr si je n'observe pas une bonne conduite et ne fais pas honneur à la noblesse de ma famille, c'est-à-dire au martyr de mon père et au témoignage qu'il a rendu illustre dans le Christ. » Puis dans une autre homélie, il déclarera « Si Dieu m'accordait d'être lavé dans mon sang, recevant ainsi le second baptême après avoir accepté la mort pour le Christ, je m'éloignerai certainement de ce monde. » Pour vous dire à quel point il désire le martyr. Il désire rendre comme plus grand témoignage de donner sa vie en fait par amour pour Jésus. Alors que vous allez le voir, son érudition est un témoignage au moins aussi important pour nous. Sa carrière de professeur. Origène reçut de son père une solide instruction scripturaire aussi bien que profane. Aussi bien que profane. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un théologien puissant aujourd'hui qu'il ne maîtrisait pas tous les autres concepts de l'Antiquité. À la suite du martyr de son père, l'État confisque le patrimoine d'Origène. Il subvient alors aux besoins de sa famille en donnant des leçons à la célèbre école catéchétique d'Alexandrie. À 18 ans seulement, il reçoit de la part de l'évêque Démétrius la responsabilité de l'école tout entière. Il attira par la valeur de son enseignement un grand nombre d'élèves, mais aussi par l'exemple de sa propre vie, comme le remarque Eusèbe. Telle est sa parole, disait-on, telle est sa conduite, et telle est sa conduite, telle est sa parole. Par là surtout, par la puissance divine qui le soulevait, il conduisait des milliers de gens à rivaliser avec lui. Eusèbe de Césarée nous dit encore d'Origène. Il s'adonnait à la vie la plus philosophique possible, tantôt par la gymnastique du jeûne, tantôt par une stricte mesure du temps du sommeil, et il s'efforçait de prendre son sommeil non pas sur une couverture, mais sur le sol. Voilà quelques idées pour le carême qui approche. On voit que vous notez avec assiduité ces propos, vous avez bien raison. Vous avez le choix entre donc la gymnastique du jeûne, ou vous prier de couverture ou dormir directement sur le sol. Pour commencer, seulement, hein, il pensait que par-dessus tout, devaient être observées les paroles évangéliques du Sauveur qui recommandent de ne pas avoir de vêtements, de ne pas se servir de sandales, et aussi celles qui disent de ne pas passer son temps dans les soucis de l'avenir. Évidemment, il ne faisait pas aussi froid que ça en Égypte, en tout cas pas aussi froid qu'ici, en Bretagne, mais quand même, cela veut dire que le seul vêtement dont veut être revêtu notre ami Origène, c'est celui du Sauveur. Et qu'en même temps, eh bien, il doit être pris par les soucis du présent, non pas par l'avenir. C'est important pour nous dire que celui qui a un esprit tourné résolument vers l'avenir, il est d'abord pris par des considérations du présent. Et il vit au présent, il ne vit pas à côté de sa vie. Eusèbe nous raconte également qu'au temps où il enseignait à Alexandrie, il se mutila, prenant dans un sens littéral à l'excès la parole de Matthieu 19, 12. Oui, le problème quand on est un peu extrême dans sa pensée, c'est que pour être cohérent, parfois il faut être cohérent jusqu'au bout. Je vous rappelle le passage de Matthieu 19, 12. Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Et il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Eh bien, Origène a compris à sa façon cette parole et du coup se mutila et donc se coupa une des mains. C'est ce que nous rapporte notamment l'histoire ecclésiastique de Zeb de Césarée. Sa carrière de professeur, elle peut se diviser en deux parties. La première va de 203 à 231 lorsqu'il dirige l'école d'Alexandrie. La seconde, de 232 à 253, où il enseigne à Césarée maritime en Palestine. Et voici que notre bon Origène part d'Alexandrie, l'Égypte. Alors, je vous rappelle, oui, Alexandrie, quand même, c'est une situation quand même avantageuse. Elle est au bord du détroit du Nil, sur la rive gauche, entre la mer et un énorme, immense lac. Sur cette langue de terre s'est développée la ville antique d'Alexandrie, qui doit son nom, évidemment, comme vous le savez, à Alexandre le Grand. Cette ville était immense. Elle était surtout reconnue dans ce monde hellénistique, oriental, à cause du foisonnement de sa bibliothèque et d'un élément que tout le monde connaît ici, que vous allez reconnaître plus près, son phare. Et reconstitutions qui ont été faites à partir des vestiges trouvés dans le port actuel au large d'Alexandrie, à côté de la forteresse de Cadbaï, d'après les blocs qui ont été retrouvés dans l'eau, phare qui était une des sept merveilles du monde. Notre brave Origène quitte ce foisonnement, ce creuset intellectuel qui était la bibliothèque d'Alexandrie et l'école catéchétique d'Alexandrie pour se rendre à Césarée maritime. C'est pas si loin que ça, surtout pas en bateau. La Palestine n'est pas très loin, mais il se rend dans cette ville que nous connaissons autrement par sa propre histoire antique. C'est-à-dire quand Origène arrive en 230 à Césarée maritime en Palestine, au bord de la mer Méditerranée, il découvre lui aussi les vestiges glorieux passés de Césarée au temps où la Judée était sous oppression romaine. Et notamment, il découvre les vestiges d'un personnage mégalomane extraordinaire, Hérode le Grand. Hérode le Grand, qui était un peu fou, en tout cas qui avait les idées et les moyens de ses ambitions, s'était fait construire une grande forteresse auprès de la mer Morte à Massada, résidence estivale, et aussi comme autre résidence estivale, il s'était fait construire au bord de la mer Méditerranée un grand palais à Césarée, un cirque au bord de l'eau, vous le voyez ce cirque, un théâtre au bord de l'eau, et puis ce grand bâtiment oblong que vous voyez sur la mer, qui n'est rien d'autre, pour vous montrer la démesure du personnage, qu'une piscine d'eau douce au milieu de la mer. Et il terminera ce foisonnement de mégalomanie par une tombe discrète et personnelle près de Bethléem, qu'on appelle aujourd'hui l'Hérodion, qui n'est rien d'autre qu'une colline artificielle construite simplement pour y ensevelir Hérode le Grand. Quand Origène débarque à Césarée maritime, il découvre les vestiges passés d'Hérode le Grand, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on dit de Césarée à son époque. Et Césarée, eh bien, c'est d'abord une grande ville, un énorme port, comme Alexandrie, et une très belle bibliothèque, avec une collection de papyrus très impressionnante. Évidemment, on ne parle pas de livres à l'époque. Je vous rappelle que cette pensée est complètement moderne. Il faut imaginer une bibliothèque avec des petits casiers, et à l'intérieur, en fait, simplement, on y glissait des rouleaux de papyrus, donc vous aviez des casiers partout, avec des répertoires et ces fameux papyrus. Césarée maritime, notre ami Origène connaît son deuxième foisonnement intellectuel On sait qu'il donne dans ses cours, que ce soit à Alexandrie ou à Césarée Maritime, des leçons de dialectique, de physique, de mathématiques, de géométrie, d'astronomie, conjointement à la philosophie grecque et à la théologie. La théologie, c'est son dada, mais c'est une partie de tout ce qu'il fait, en fait. C'est un génie, au sens du terme, où il est capable d'une grande production, mais surtout d'une ouverture d'esprit maximum. Et comme chaque intellectuel de son époque, eh bien, il est capable de manier toutes les sciences en même temps. Mais comme cette charge devenait trop pesante, il confie à son élève Héraclas les matières préparatoires et se réserve la formation des élèves plus avancés à la philosophie, la théologie et plus particulièrement à la Sainte Écriture. Des pères de l'Église comme Origène ou comme Augustin, qui ont écrit un traité sur la musique ou encore sur les mathématiques, sont convaincus qu'on ne peut parvenir à la théologie que si on maîtrise d'abord toutes les sciences dites rationnelles, puis ensuite la philosophie, et ensuite seulement la théologie. C'est pour vous dire le chemin qui nous reste à parcourir. Mais c'est pas grave, c'est ce que vous avez commencé à faire avec l'Athénée. Donc normalement, à la fin de l'année, c'est vous qui allez m'encourager à lire les pères. Origène interrompt son enseignement à Alexandrie par plusieurs voyages en 212, parce qu'en plus de ça, il mène une vie dingue. Il va à Rome en 212, en 215, il part en voyage en Arabie Saoudite, à l'époque, à Antioche ensuite, en 216 en Palestine, où les évêques de Césarée, de Jérusalem et d'autres cités palestiniennes le prient de prononcer quelques sermons et quelques homélies, parce que déjà, ils ont appris sa réputation. Jusqu'en 232, il est laïque. Il n'est toujours pas prêtre, encore moins évêque. Tous ses enseignements, il le fait comme laïque génial et génialement renseigné, mais pas encore ordonné. Il est ordonné que par la suite, vers 232, et c'est là qu'il se retirera à Césarée Maritime pour fonder une nouvelle école de théologie. Puis, il mourra à Tyr, au Liban actuel, en 253, vers 66 ans. Nous devons retenir comme enseignement d'Origène beaucoup de traités, mais si nous écoutons d'abord Saint Jérôme, qui écrit beaucoup plus tard que lui au IVe siècle, Saint Jérôme nous dit que Origène va l'inspirer sur beaucoup d'exemples, premièrement pour son amour de l'écriture sainte, je vais y revenir tout de suite, mais surtout par l'ampleur de son génie intellectuel. Et Jérôme nous dit dans une lettre, la lettre numéro 33, qu'Origène a écrit plus de 320 livres et 310 homélies. Évidemment, le matériel qui est parvenu jusqu'à nous est infime par rapport à ce qui a été produit. Nous n'en avons que la trace, nous n'avons que certains opuscules sur la prière ou sur tel ou tel commentaire de tel ou tel évangile. Évidemment, les textes, pour nous parvenir, ont dû affronter les épreuves du temps, les tremblements de terre, c'était le cas notamment à Alexandrie, qui a quand même causé la perte du phare et de la bibliothèque, mais c'était le cas aussi en Palestine, les incendies, mais aussi les ravages des hommes, qui ont détruit la science sacrée. Les œuvres qui sont parvenues jusqu'à nous sont d'abord le mérite des moines copistes du Moyen-Âge. Un des grands axes sur lesquels je veux m'arrêter avec vous, c'est la capacité qu'a Origène de traiter l'écriture sacrée, les saintes écritures, et notamment d'en faire l'exégèse. L'exégèse, ce mot un peu compliqué et barbare, veut surtout dire explication. Origène lut tout d'abord la Bible avec l'intention d'en certifier le mieux possible le texte et d'en offrir l'édition la plus fiable. Cela, par exemple, est le premier cas, connaître réellement ce qui est écrit et connaître ce qu'est l'écriture et ce qu'elle voulait intentionnellement et initialement dire. Est-ce que vous, par exemple, quand vous ouvrez l'écriture chez vous, vous ne vous contentez pas d'ouvrir Prions l'Église, mais vous vous dites, tiens, est-ce que je pourrais non pas simplement d'abord aller à la racine du texte et aller chercher la version la plus ancienne que j'ai, c'est-à-dire la Bible de Jérusalem. On m'a dit qu'elle était bien apprêtée, qu'elle avait de belles notes et que c'était important de me référer à un texte sûr. Ou est-ce que je veux aussi me référer au texte de la traduction œcuménique, parce que c'est important de ménager une certaine ouverture d'esprit. Ou est-ce que peut-être, en fait, j'ai appris aussi que, eh bien, il faudrait que je possède la Bible du chanoine Crampon, et puis de celui d'Ostie aussi, parce qu'il a une vision différente et sa traduction est différente. Ou est-ce que vous ouvrez simplement Magnificat et vous vous dites, oh, ce texte est déjà bien, c'est merveilleux. Origène nous donne le goût de l'écriture, mais il est marqué du scrupule de retourner à la lettre telle qu'elle a été écrite. Et pour construire un nouveau mode de pensée et pour pouvoir faire des commentaires de l'écriture, que ce soit de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, il a besoin d'outils qui n'existent pas à son époque. Il ne dispose pas de livres ou il ne dispose pas de dictionnaires. Il dispose simplement devant lui de versions différentes de la Bible ou du Nouveau Testament. Et Origène, pour avancer dans ses travaux bibliques, va réussir à construire des outils, je vais y revenir un instant, mais il va surtout se donner une nouvelle méthode de travail. Son premier but, c'est connaître exactement ce qui est écrit, le texte comme tel. En deuxième lieu, Origène lut systématiquement la Bible en l'accompagnant de célèbres commentaires. Dans un deuxième temps, il donne son interprétation personnelle et il fait des commentaires. Ils reproduisent fidèlement les explications que le maître offrait pendant les leçons à l'école à Alexandrie comme à Césarée. Origène procède presque verset par verset, de manière minutieuse, ample et approfondie, avec des notes à caractère philologique et doctrinal. Il donne le sens des mots et en même temps il dit pourquoi ils ont été écrits. Il travaille avec une grande exactitude pour bien comprendre ce que voulaient dire les auteurs saints. Enfin, même avant son ordination sacerdotale, Origène se consacre intensément à la prédication de la Bible. Il prépare des homélies, et notamment, Origène ne voyait pas simplement dans la Bible un traité de dogme ou de morale, mais quelque chose de bien vivant, de bien plus vivant et de bien plus élevé, le reflet d'un monde invisible. La Bible est pour lui d'abord la parole de Dieu, non un verbe mort, mais emprisonné dans le passé. Mais je n'ai de parole vivante qui s'adresse directement à l'homme d'aujourd'hui. Le Nouveau Testament éclaire l'Ancien et ne révèle lui-même sa profondeur qu'à la lumière de celui-ci. C'est la clé, c'est la devise de tout père de l'Église. L'Ancien Testament révèle le Nouveau, ou plus exactement, dans l'Ancien Testament, il y a déjà des traces du nouveau. Tout me dit que Jésus va arriver, que le Messie est prévu depuis la Genèse. Par inversion, le Nouveau Testament me montre à quel point l'Ancien Testament avait préparé la voie et effectivement à quel point je peux relire l'Ancien Testament comme les prémices du nouveau. L'Ancien aide à comprendre le Nouveau aide à comprendre l'Ancien. Il y a vraiment une unité entre ces deux testaments. Et Origène va beaucoup utiliser la figure allégorique, comme notamment d'autres pères, pour parler de l'écriture. Il va nous dire notamment que dans l'Écriture, il y a la doctrine d'après laquelle les Écritures furent composées par l'Esprit de Dieu et comportent, en plus de leur sens, un autre qui est caché à la majorité des lecteurs. Le contenu de l'Écriture est en fait le contour extérieur de certains mystères et l'image des choses divines. Sur ce point, l'Église est unanime. La loi entière est spirituelle, mais son sens spirituel n'est pas reconnu par tous. Seuls le découvrent ceux qui bénéficient de la grâce du Saint-Esprit dans la parole de sagesse et de science. Il nous dit, à nous cet après-midi, ayez à cœur de scruter l'Écriture, mais soyez patients, parce qu'elle ne va pas se révéler à vous tout de suite. Elle va se révéler à vous sous des formes diverses et variées. C'est ce que Origène va nous dévoiler. Il distingue Origène dans l'Écriture trois sens différents. Il nous dit « La manière, semble-t-il, dont nous devons étudier les Écritures et rechercher leur signification est la suivante, s'appuyant sur les Écritures elles-mêmes. Ainsi tenons-nous de Salomon dans les Proverbes une règle concernant la doctrine divine de l'Écriture. Tu les décriras de trois façons, en conseil et science, pour répondre des paroles de vérité à ceux qui te les proposent. Il faut donc traduire les idées de la Sainte Écriture dans son âme de trois manières différentes. Le simple sera édifié par la chair. Pour ainsi dire, de l'Écriture, nous nommons de cette façon le sens naturel, ce qu'il appellera le sens littéral. Celui qui a déjà progressé un peu le sera par l'âme, en quelque sorte. Quant au parfait, il sera édifié par la voie spirituelle qui contient une ombre des biens à venir, de même que l'homme se compose de corps, d'âme et d'esprit. Ainsi l'Écriture qui a été établie par Dieu pour donner le salut à l'humanité. Évidemment, comme homme de son temps et comme homme de l'Antiquité, il recite la composition tripartite de l'homme, corps, âme et esprit. Évidemment, la lecture de l'Écriture peut se faire selon une triade qui lui est propre, qui sera le sens littéral, le sens moral et le sens spirituel. Je vais vous les écrire tout à l'heure. Voilà. Et Origène lit tout texte biblique à travers ce prisme, le sens littéral, le sens moral et le sens spirituel, comme s'il voulait dévoiler à chaque fois un sens qui n'est pas compris d'abord apparemment par les autres. Origène, fort de sa science encyclopédique, va inventer un instrument de recherche pour pouvoir arriver à ses commentaires qu'il appelle les exaples. Les exaples, c'est un tableau en six colonnes où il va écrire, comme un instrument en fait qu'il possède sous la main, mais qui est immense, je pense, qui est à plier et replier sur des kilomètres, où il va écrire la Bible avec six versions différentes sous les yeux. Dans la première colonne, il donnera le texte hébreu en caractère hébraïque. Dans la seconde colonne, le texte hébreu en caractère grec. Dans la troisième colonne, la traduction grecque d'Aquila, un contemporain mais qui l'a précédé du début du 1er siècle. Dans la quatrième colonne, la traduction grecque d'un certain Symmaque. Dans la cinquième colonne, la traduction de la Septante, donc en grec. Et enfin, une sixième colonne, la traduction d'un certain Théodotion. Pour vous dire le scrupule que cet homme a, il travaille tous les textes avec six versions différentes sous les yeux pour être sûr du sens de chaque mot. Donc nous pouvons savoir, quand il nous donne un commentaire, qu'il a bien réfléchi avant de parler. Nous avons la trace de ces exemples qui ne nous sont pas parvenus à travers un tout petit morceau de manuscrit du Moyen-Âge que nous avons retrouvé sous la forme d'un palimpseste, c'est-à-dire que sous le texte écrit, il y en a un autre dévoilé. Ce texte dévoilé en dessous du manuscrit, ce sont les fameuses colonnes des exaples, exaples H-E-X-A-P-L-E-S, qui veut dire simplement six feuilles, six colonnes. Les exaples, c'était en fait une synopse de son temps où il regardait les traductions en dessous pour pouvoir simplement apporter la meilleure version possible. Et voici à quoi ressemblait sûrement le texte, c'est-à-dire la première colonne en hébreu, comme on l'a dit, la seconde en grec, et la troisième, les différentes versions qu'il avait dans les différentes langues. Et vous avez copié sur ce petit morceau la trace du manuscrit qu'on a retrouvé. Donc le manuscrit et la langue typographiée en noir ne nous intéressent pas. Par contre, le reste nous intéresse. Alors, à la suite de notre ami Origène, le Moyen-Âge donnera quatre sens à l'écriture. Je ne vais pas m'arrêter ici à ça, mais sachez que l'évolution de l'interprétation des sciences liées à la Sainte Écriture, on passera du sens littéral, moral et spirituel au Moyen-Âge à quelque chose de plus pousser encore. Je vous retrouve. Voilà. Le sens littéral restera, l'allégorie restera, le sens, donc le sens littéral, le sens moral resteront, l'allégorie deviendra le sens spirituel et l'anagogie prendra un quatrième versant. C'est ce que développera notamment saint Thomas et ses disciples, saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, pour parler des différents sens de l'écriture. Je ne m'y arrête pas ici. Ce qui m'intéresse simplement, c'est de faire l'expérience avec vous, puisqu'on a entendu l'enseignement du Père Patrick, et de terminer par ça, de la transfiguration, mais vue par les sens de l'écriture d'origine, et ensuite par son propre commentaire. Si, maintenant que vous avez à vos oreilles le texte de la transfiguration, je vais le relire à travers les paroles d'origine, mais pour ce faire avant, je vais vous proposer, moi, les trois clés d'interprétation d'origine, c'est-à-dire le texte de la transfiguration au sens littéral, au sens moral et au sens spirituel. Si on doit comprendre le sens littéral du texte de la transfiguration, Jésus se rend sur une haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean, ce que tout le monde peut comprendre. Au cours d'un miracle, ses vêtements et son aspect changent. Apparaissent Élie et Moïse, et une voix se fait entendre qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » ou « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Au sens moral, Jésus a été choisi par le Père. Il nous faut obéir à tous les commandements. Les apôtres ne comprennent pas le sens de cet événement, mais ils en gardent le secret. Troisième sens, au sens spirituel, ce que nous pouvons comprendre et qu'a déjà tenté d'expliquer le Père Patrick. Jésus révèle la gloire de sa vraie identité divine. Élie représente les prophètes, Moïse, la loi. Jésus est le Messie annoncé par les prophètes et la loi. Il est la nouvelle loi. Il révèle par anticipation son visage de ressuscité. Qu'est-ce que c'est que la transfiguration ? L'anticipation, en fait, de la résurrection du corps glorieux de Jésus. La voix de Dieu le Père nous redit que le Christ est bien le Fils de Dieu. Par sa mort et par sa résurrection et par notre baptême, le Christ nous confère la filiation divine. Il fait de nous des enfants de Dieu, appelés à vivre sur terre de ses commandements, appelés à vivre au ciel auprès de lui pour l'éternité. Et il nous fait entrer avec lui dans sa gloire. Irénée nous dira « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu ». Ça, c'est le plus grand épanchement, on va dire, spirituel de cette relecture de la transfiguration. Maintenant, allons voir dans le propre commentaire d'Origène ce qu'il dit, lui, de la transfiguration. Et vous allez voir que vous allez retrouver des passages du Père Patrick. On ne prend pas le passage de Luc que vous avez sous les yeux, mais on prend le passage de Matthieu 17. Parce que vous le savez, comme le Père Patrick l'a dit, l'évangile ressort dans les synoptiques chez Marc, Matthieu et Luc. Origène nous dit « Ou bien encore, comme ce monde visible a été créé après le nombre complet de 6 jours, celui qui s'élève au-dessus de toutes les choses du monde peut monter sur cette montagne élevée pour y contempler la gloire du Verbe de Dieu. » Premièrement, Origène ne nous dit pas où se passe la scène. Il fait bien référence à cette montagne qui est bien le lieu de la révélation du lieu sacré de la rencontre entre Dieu et les hommes. Il nous parle des 6 jours, non pas des 8 jours qui est dans la version de Luc, mais il nous parle des 6 jours, donc comme aussi un jour nouveau, celui du sabbat. Il continue, Origène, dans le sens mystique, celui qui, comme nous l'avons dit, s'est élevé au-dessus des 6 jours, voit Jésus transfiguré devant les yeux de son cœur. Car le Verbe de Dieu a diverses formes. Vous voyez que lui, les trois sens de l'écriture s'interpénètrent et se mélangent sans cesse. Il nous dit des choses banales et il nous dit des choses élevées. Le Verbe de Dieu a diverses formes et il se découvre à chacun de la manière qu'il sait lui être la plus utile, sans jamais se dévoiler au-delà des positions de son âme. Aussitôt l'évangéliste ne dit-il pas simplement « il fut transfiguré », mais « il fut transfiguré devant eux ». En effet, dans l'Évangile, Jésus est compris d'une manière simple et ordinaire par ceux qui ne peuvent monter sur la montagne élevée de la sagesse par les saints exercices des entretiens spirituels. Et je terminerai par là mon propos en terminant le commentaire d'Origène qu'il fait de la transfiguration. C'est quand même pratique d'avoir une horloge derrière soi. Ceux, au contraire, qui sont assez heureux pour gravir cette montagne, ne le connaissent plus selon la chair, mais voient en lui le Verbe de Dieu. Le Père Patrick a parlé des privilégiés qui montent avec lui sur la montagne, de Pierre, Jacques et Jean, qui aussi auront droit à la gloire de l'agonie. Origène nous y invite. C'est devant eux que Jésus se transfigure, et non pas devant ceux qui vivent ici-bas, d'une vie toute terrestre. Ceux devant lesquels Jésus se transfigure deviennent les enfants de Dieu. Ils se découvrent à leurs yeux comme le soleil de justice, et ses vêtements deviennent brillants comme la lumière. Ses vêtements sont les discours et les récits de l'Évangile, dont Jésus est comme revêtu, et que les apôtres nous ont conservés dans leurs écrits. Interprétation d'Origène pour la nuée. Cette nuée qui couvre et protège les saints, c'est la vertu du Père, ou bien l'Esprit Saint. Je dirais même que notre Sauveur est la nuée lumineuse qui couvre l'Évangile. Alors on part à des sphères vraiment patristiques. La loi et les prophètes, comme le comprennent bien ceux qui peuvent y contempler sa lumière. La voix qui sort de la nuée s'adressait à Moïse et à Élie, qui désiraient voir et entendre le Fils de Dieu, ou bien aux apôtres pour les instruire. Tous ces propos, et notamment ce commentaire d'Origène en comparaison avec ce que vous venez d'entendre de la transfiguration, pour vous montrer que d'un niveau absolument banal qui est la lecture du texte, on peut monter à un niveau qui est extraordinairement enrichi par notamment notre prière, mais par une relecture, par une mastication de la parole de Dieu, dont les plus grands et éminents portent un signe, sont les pères de l'Église. Alors, je termine mon propos simplement par trois motifs pour continuer à étudier les pères de l'Église, pour vous dire premièrement que c'est accessible, que c'est une joie et un trésor toujours renouvelé. Pour mieux comprendre, il faut lire les pères de l'Église pour mieux comprendre les héritiers de notre pensée, tant au siècle patristique qu'au Moyen Âge. En effet, Origène a donné comme premier disciple Ambroise de Milan, Augustin, Grégoire le Grand. Plus tard au Moyen-Âge, des gens comme Cassien ou Saint-Bernard. Redécouvrir les pères, c'est aussi découvrir, chez Origène par exemple, la puissance d'une synthèse spirituelle de valeurs dans laquelle la spiritualité monastique s'enracine. La prière et l'action ne font qu'un. Pour s'appliquer à une méditation théologique du mystère chrétien vu à travers la Bible, dont Origène rapproche les textes, les éclairant les uns par rapport aux autres, les ramenant tous à exprimer le mystère du Christ. Plus et mieux qu'aucun autre auteur, Origène peut nous communiquer le respect et l'amour de la parole de Dieu. La Bible est vue par lui comme le sacrement de la présence de cette parole. À ce degré d'initiation que vous avez subi cet après-midi, eh bien vous pouvez ajouter tous les autres degrés d'Origène, et notamment les degrés théologiques. Et pour ça, il faut avoir le courage extraordinaire d'ouvrir un livre. Bonne poursuite à chacun, et si vous avez des questions, je tente d'y répondre dans le temps imparti. Ils sont patients. Merci pour votre patience. J'espère que vous avez eu le son et l'image.
Oui. Parfait.
Alors, est-ce que ici à Pontivy ou à Pleurmel, il y a des questions concernant cette intervention sur les pères de l'Église? Avantage, oui. C'est que je pourrais y répondre dans le temps. Si je
Vas-y, tu le dis.
Alors, moi, je m'étais intéressé au cardinal Newman, et je ne sais pas si le père a un ouvrage à proposer. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé.
Un instant, je réponds à la question de Pleurmel, qui est sur un ouvrage à conseiller du cardinal Newman, mais je peux poser la question peut-être à Germanus ici présent ou au père Frédéric. Question que j'aurais posée volontiers et davantage au père Antoine Devrec ce matin, au père de l'oratoire, parce que Newman, c'est d'abord un oratorien, Ouvrage à vous conseiller d'abord de Newman. Non, je n'en ai pas comme ça, mais je vous dirais de poser la question. Comment ? Oui. Non, un ouvrage lié plus au père. Quand j'évoquais la figure de Newman, c'est surtout parce que c'est quelqu'un qui est pétri des pères de l'Église. Il n'a pas écrit d'ouvrage en particulier, il me semble, sur les pères de l'Église, mais c'est parce que son ouvrage tout entier, enfin sa pensée, est pétri par les pères de l'Église. Mais ça vaudrait la peine d'envoyer un mail aux pères oratoriens qui seront, à mon avis, heureux de vous répondre, ou de regarder un de ces biographes contemporains qui est Keith Beaumont, là, et qui, à mon avis, doit avoir fait un lien entre les pères de l'Église et Newman. Une question ici, à Pontivy. Ah non, pourquoi Origène n'a pas été canonisé ? Alors, c'est compliqué, mais je vais tenter d'y répondre succinctement. Il n'est pas le seul à ne pas avoir été canonisé, et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il n'est pas saint qu'on ne continue pas de l'étudier aujourd'hui. Un des plus grands défenseurs, ou un de ceux qui a le plus tenté de réhabiliter Origène, il faut le savoir, c'est le pape Benoît XVI. Pour lui, ça ne fait aucun doute qu'il est saint. S'il n'est pas saint, c'est simplement parce qu'il a été déposé au concile de Nicée. On l'a mis de côté, on a décidé de mettre de côté son enseignement parce que ces textes ont été mal interprétés. Encore une fois, on a tiré son enseignement de son contexte et il a été mal interprété. On l'a pris notamment comme le disciple d'Arius, donc de quelqu'un qui n'a pas défendu la divinité du Christ au concile de Nicée, et du coup il a été rayé et on a mis une croix dessus. Mais pour l'ensemble aujourd'hui des théologiens ou des gens qui font de la patristique, le pape Benoît XVI le premier, il est clair que l'exemple de sa vie est de l'ordre de la sainteté, même s'il n'est pas déclaré comme tel. Ça nous laisse aussi un peu de marge à nous, heureusement. D'autres questions ?
Je vais répondre à la question sur Newman. Regardez les études newmaniennes, j'ai eu plein de colloques avec différents...
Gervanus, ici présent à Pontivy, nous dit que pour répondre à la question de Newman, il faut aller sur Internet et regarder les études newmaniennes, où il y a notamment pas mal de colloques qui parlent du lien entre Newman et les pères de l'Église. Donc vous allez faire des petits clics sur Internet et vous aurez des réponses. Voilà. D'autres questions ? Sinon je m'arrête là, puisqu'il est 15h59 et je perds ma voix à 16h. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Content de voir que vous n'avez pas trop dormi.
Et que la technique a marché.
Comment ?
Et que la technique a marché.
Et la technique a marché, c'est merveilleux. Je vous passe le père.
Voilà, merci au père Thomas. J'ai toujours mes phrases passent partout. Je me dis que n'arrête pas de parler du dialogue interreligieux. Je suis frappé toujours de voir... dans mes contacts, combien les musulmans connaissent leur Coran et la Sunna, les juifs la Torah, et surtout les préceptes, les protestants connaissent très bien, même sur le bout des doigts de la Bible, et parfois je me dis, les catholiques, ils travaillent. Non, mais c'est vrai. Parfois, on dit, oui, mais les autres, oui, mais regardons devant notre porte, et moi, le premier, et on a tendance parfois, quand on veut faire des cadeaux ou passer une bonne soirée, etc., d'aller dans une librairie et d'acheter une vie de saint. Eh bien, ce serait peut-être bien qu'on aille aussi parfois dans une librairie acheter une vie d'un père de l'Église. Alors le père... Non, ne souriez pas. Vous pourriez très bien... Le père Thomas vous a montré les sources chrétiennes tout à l'heure. Dans l'introduction, vous avez parlé du pédagogue de Clément d'Alexandrie, qui est tout à fait abordable. Et ensuite, il y a des commentaires un peu plus compliqués. Mais n'hésitons pas, il y a des biographies, des petites biographies des pères de l'Église. Et vraiment, le bouquin que vous a conseillé le père Thomas et que je vous conseille aussi, hein, et en plus vous pouvez même trouver les liens sur Internet, sur le site du Vatican, ce sont les catéchèses du pape Benoît XVI sur les pères de l'Église. C'est une perle, une mine d'or.
Toutes les audiences,
tous les textes des pères de l'Église sont sur Internet. N'ayons pas peur. De nous replonger, il n'y a pas d'âge pour cela, hein. Et on le voit avec les inscrits de l'Athénée, avec courage, c'est pas si simple que ça de nous plonger dans notre tradition pour mieux expliquer, mieux connaître et mieux argumenter face aussi parfois à des personnes en face de nous qui ils peuvent nous chercher et voilà. C'est très bien pour notre moral. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve le 20 mars. Alors, ce sera Yvette de Château-Thierry qui sera en direct chez vous à Plouermel et en visioconférence ici à Pontivy. Ça devait être le Père Thomas. Le Père Thomas donne un autre cours de patristique pour les étudiants de l'Université catholique de l'Ouest. On retrouvera le Père Thomas un peu plus tard pour son deuxième cours. Donc, le prochain cours, 20 mars, 14h, 16h, Yvette de Château-Thierry en vrai à Plouermel et en visio ici. Bon courage pour les programmes de l'ancien route.
Merci et à la prochaine fois.
Merci à toi.